1 Timothée chapitre 3, on va continuer notre étude de cette épître. 1 Timothée 3, versets 8 à 16. Alors, il est écrit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. On les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Paul de dire, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. On va aller dans Actes chapitre 6 également. Actes chapitre 6, on va lire les 6 premiers versets. Actes chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça fait quelques semaines qu'on parle de cette épître et on a vu un peu que Paul dit à Timothée d'organiser cette église locale. On avait vu qu'il y avait un rôle déjà pour les hommes, et puis il y a un rôle particulier pour les femmes dans l'Église. La dernière fois, nous avions parlé des anciens, qui sont les pasteurs ou les évêques, hein, les mots sont interchangeables, et qui pèsent et s'occupent en fait de l'Église. Et maintenant, Paul va un peu plus loin, il va parler maintenant des diacres et des diaconesses. Hein. Et là, de la même manière qu'il avait donné un CV, on pourrait dire un cahier de charge aux anciens, il va donner un cahier de charge à ces gens qui sont appelés diacres et diaconesses. On va voir un peu ce que c'est que ces diacres et diaconesses, hein, parce que souvent ce n'est pas dans les églises où on a tendance à oublier un peu de mettre ces rôles en place, c'est bien dommage. On va voir les critères d'éligibilité, et puis on va voir qu'on n'est peut-être pas ancien, on n'est peut-être pas pasteur ou on n'est pas diacre, mais qu'on a aussi quelque chose à faire dans l'église. Donc, quand on s'intéresse un peu à la mise en place et au rôle, alors qui sont les diacres et les diaconesses? Alors le terme diacre, c'est un mot grec qui dit « diakonos ». Alors ça peut autant signifier serviteur, mais ça peut aussi signifier ministre, magistrat ou diaconesse. Le mot est utilisé de plusieurs manières. Le diaconos en général était celui qui exécutait les commandements ou les ordres d'un maître. C'est quelqu'un qui était au service de quelqu'un d'autre, subordonné on pourrait dire. Dans la pensée grecque, ce mot s'appliquait aussi à un service accompli par un homme libre en faveur d'une cause commune ou d'une divinité. Bon, ça c'est Platon qui est en train d'en parler, mais il était là subordonné à une cause et il voulait servir tout simplement cette cause. Dans la littérature judaïque, on voit que c'était quelqu'un qui, par exemple, gérait les aumônes ou s'occupait aussi des pauvres. Toujours en action comme un serviteur qui s'occupe des besoins d'autrui. Alors, dans l'Église primitive, et c'est pour ça que j'ai lu Acte 6, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord en disant que c'est des diacres, mais moi je pense que c'en est. Et on voit qu'à un moment, ben, les apôtres étaient débordés par le travail qu'ils avaient à faire, ils ne pouvaient plus prier, ils ne pouvaient plus prêcher, parce qu'il fallait s'occuper des pauvres, des veuves, etc. Et ben, à un moment, ils ont décidé de mettre en place ces 7 hommes qui allaient maintenant s'occuper de ces choses-là, Comme ça, eux pouvaient s'occuper de leur charge, de prier pour ces gens, d'annoncer l'évangile aussi. Et donc, ils ont fait voter par l'Assemblée des personnes qui allaient maintenant s'occuper des pauvres, qui allaient distribuer l'argent à ces pauvres, qui s'occupaient des veuves. Enfin bon, c'était des gens qui étaient un peu multitâches, on pourrait dire. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé dans son exercice. On voit aussi que dans ce passage, il parle des diacres et à un moment, il s'arrête sur les femmes. Et la grande question est de savoir s'il y a des diaconesses. Parce que tout le monde n'est pas d'accord qu'il y a des diaconesses dans l'Église. Alors, on va voir un petit peu le débat, entre guillemets, rapidement. On sait par exemple dans Romains 16, 1, qu'il y a Phoebé. Je ne sais pas si vous connaissez Phoebé. C'est le seul passage qui parle d'une diaconesse. Elle est appelée Phoebé, diaconesse de l'Église de Sancheret. Et bien précisé qu'elle était là comme une diaconesse. Alors, est-ce qu'il y a diaconesse ou pas? Alors, j'espère que ça va marcher. J'ai mis les arguments par écrit, ça va être peut-être plus simple pour vous de suivre. On va voir d'abord les arguments qui sont contre, qui disent qu'il n'existe pas de diaconesse dans l'Église. Hein, parce que ça existe, hein, même chez les baptistes, je précise. Alors, il y en a qui disent, les versions ordinaires, par exemple Calvin, Luther, traduisent par « leurs femmes », parce qu'à un moment, il ne dit pas « les diaconesses ». Au verset 11, il dit « les femmes de même doivent ». Donc, ils traduisent par « femme », mais aucun pronom possessif ni article défini ne relie ces femmes aux diacres. Il n'y a pas de lien qui est fait entre les diaconesses et les diacres. Donc, ça pose problème. Et puis, pourquoi Paul fait une pause parce qu'il parle d'abord des diacres, d'un coup, il parle des femmes, et il recommence à parler des diacres. Et ces gens se posent la question, mais pourquoi il faut une pause? Il faudrait peut-être donc dire plutôt qu'il est en train de parler des femmes des diacres, et pas de diaconesses. Hein. Vous me suivez? Vous me dites oui, et après, si je vous fais une interrogation écrite. L'idée, c'est en fait, ils disent, on ne parle pas de diaconesse comme est un diacre dans le service, mais plutôt des femmes des diacres. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment. Il y a d'autres arguments, on va dire... je suis allé en arrière. Il y aurait des arguments plutôt historiques. Alors, quand on regarde un peu dans l'histoire de l'Église, on voit que le rôle de diaconesse semble ne pas devenir officiel avant le 3e siècle. Là, on est... au début de l'Église primitive, particulièrement dans l'Est, avec le développement de la classe des veuves qui visitaient les malades et aidaient les femmes lors des batailles. Il semblerait que ce rôle se soit mis en place 3 siècles après le début de l'Église. Autre argument, l'office des diaconesses semble avoir été limité à la province romaine de la Syrie, donc ce n'était pas quelque chose qui était partout dans toutes les églises. Et puis d'autres disent, il n'y a aucune preuve que de telles diaconesses semblables à celles dans les constitutions apostoliques et ont des responsabilités sociales et liturgiques limitées et jamais existées dans l'Ouest. Lui, il enlève carrément l'idée d'une diaconesse. Il y a encore, je crois, une deuxième partie, ouais, toujours argument. Le concile de Saragossa en 380 après Jésus-Christ et le concile de Nîmes en 380 après Jésus-Christ avertissaient contre le mouvement priscillien, vous irez voir sur Internet, qui donnait des fonctions officielles aux femmes et contre l'office de diaconesse inconnu dans l'Église romaine jusqu'alors. Ça, on parle là de l'Église catholique, qui refusait au départ les diaconesses. Puis le concile d'Orange en 441, réaffirmé par le concile d'Éparon en 517 et d'Orléans en 533, a décrété que les diaconesses ne devaient pas être consacrées. Donc il y a un rejet ici de ce ministère, on pourrait dire, de ce service de diaconesses de femmes. Alors ça, c'était l'argument contre. Alors moi, voici mes arguments, et pour beaucoup. Alors d'abord, au verset 11, il dit l'expression « de même ». Il parle des diacres et d'un coup, il dit « de même ». Donc il est en train de parler de la même chose à ce moment-là, sans désigner plutôt un troisième groupe distinct des anciens et des diacres. Il parlait des anciens, il parle des diacres, d'un coup il dit de même, donc il fait une espèce de troisième groupe, c'est les diaconesses, et puis il reprend avec le deuxième groupe qui est les diacres. Deuxième argument, Paul n'a pas établi aucune qualité pour les femmes des anciens. Si on disait là que c'était les femmes des diacres, pourquoi il ne parle pas des femmes des anciens? Parce que je pense que ça serait aussi important dans ce cas-là. Suivez l'idée. Pourquoi il parlait que des femmes? Est-ce que les femmes des anciens pourraient faire ce qu'elles ont envie alors que les femmes des diaconesses non, je ne pense pas. Donc c'est un argument. Alors pourquoi l'exigerait-il seulement des épouses de diacres? On pourrait répondre, alors là, moi je me contredis, parce que j'aime aussi me contredire. On pourrait répondre que Paul est en train de faire un mix des deux femmes, celle autant des diaconesses que des anciens. Mais bon, je préfère garder le premier argument. Il faut savoir aussi que le mot « femme », qui en grec est « gynaikas », désigne aussi bien les épouses que les femmes en général. Ça ne voulait pas dire forcément la femme d'eux, mais ça pouvait être et aussi l'épouse, mais aussi la femme en général, quand on parle d'une femme. Il est difficile donc d'affirmer que là, il s'agit absolument des épouses des diacres, puisque le terme peut dire simplement des femmes.
Donc c'est un argument aussi de poids. Quatrième argument, Paul n'emploie pas le mot diakonès parce que, en fait, dans le grec à l'époque, ça n'existait pas, tout simplement. Hein, il est obligé d'employer le même mot qu'il fait pour les hommes, diakonos, qui est autant employé pour les hommes et les femmes. Par contre, il y a la grammaire qui est là. Vous connaissez la grammaire grecque, j'imagine. Oui, autant que la française. Mais dans le grec, il est bien clairement précisé que c'est au féminin. Il y avait un même mot qui pouvait être employé au masculin pour désigner un homme, mais qui était aussi employé au féminin. Et diakonos est employé là pour parler de ces femmes au féminin. Je parle surtout de Phoebé. Le bailli, je ne sais pas si vous connaissez, parce que des fois, on va voir dans, on va dire dans les dictionnaires chrétiens pour voir ce que ça signifie, mais moi, j'aime bien aller voir plus loin. Le bailli, c'est un dictionnaire grec qui parle de tous les mots grecs qui existent. Hein, donc, il est vraiment neutre par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, et lui-même va traduire par diakonès. Donc, ce n'est pas que l'argument biblique, mais même le monde, entre guillemets, traduirait par diakonès. Et c'est qu'à l'époque néo-testamentaire qu'un terme va être créé pour se distinguer de l'homme. On appellera ça le diakonissa, et c'est pourquoi Paul ne peut pas employer ce mot à ce moment-là. Et l'argument donc de dire c'est absolument les épouses des diacres n'est pas valable. Et puis 5, les qualités exigées des diaconesses sont presque les mêmes que celles évoquées par les diacres. Donc il demande des choses aux diacres et il va demander presque les mêmes choses aux femmes en tant que diaconesses. Ça va ? Révision ? Interrogation ? Non ? Enfin, je pense qu'on parle plus de diaconesse que de femme, simplement, de diacre. On va revenir à nos trois points. Voilà, juste pour les arguments. Si vous voulez, je peux vous les envoyer, hein, pour réfléchir de nouveau là-dessus. Donc moi, je suis en faveur, en tout cas avec beaucoup d'autres, pour qu'il y ait autant des diacres, mais aussi des dames, diaconesses, qui sont là pour servir dans l'Église. Alors le choix des diacres et diaconesses, hein, ils sont choisis, on l'a vu tout à l'heure dans Acte 6, par l'Assemblée. C'est pas moi qui dis à un moment, tiens, c'est comme les anciens la semaine dernière, tiens, j'ai envie d'être ancien, j'ai envie d'être diacre, donc je suis diacre. Non, ça passe par l'Assemblée. En Acte 6, on voit qu'ils sont choisis, hein, le mot veut dire on a jeté le regard sur. Donc ils ne sont pas autoproclamés, c'est encore l'Assemblée qui va les choisir. On a vu dans Acte, ils ont demandé certains critères avant de les proposer et avant de les choisir. Ils sont élus aussi, et donc élus par l'Assemblée, ils sont choisis, élus par l'Assemblée, sur des critères de sagesse et des critères spirituels. On va les voir tout à l'heure. Ils sont aussi éprouvés avant d'exercer leur ministère. Ça veut dire qu'on va les observer avant de leur proposer, ou avant de voter. Ils sont éprouvés, ça veut dire qu'on va discerner, on va essayer de les comprendre, on va essayer de les apprécier, on va essayer de les approuver, on va même les sonder. Sans exagérer, évidemment, hein. On ne va pas voir toute leur vie non plus. Dieu qui est là, mais ils sont mis à l'épreuve, examinés par l'Assemblée, parce qu'ils veulent faire un choix sérieux. C'est pas un choix spontané. Hein. « Oh là, il est beau celui-là, j'ai envie de l'avoir comme diacre. Hein. » J'ai déjà entendu. Hein. Et j'ai déjà eu des votes comme ça, parce qu'ils ne savaient pas, en fait, comment il fallait faire. Donc c'est un choix sérieux, et ce choix ne va pas se faire le jour même du vote, mais ça se fait en amont, et on prend le temps un peu d'examiner les uns et les autres. Hein. Et le problème, c'est que si on choisit les diacres juste sur nos critères, nous, de sensibilité, de sentiment, etc., c'est l'Église qui peut en pâtir. Ils sont plusieurs aussi, on voit une pluralité. Hein, dans Acte 6, ils ont élu plusieurs diacres, là, ils étaient 7. Je pense que ça dépend aussi de la taille de l'Église. Hein, le jour où on sera 1000 personnes ici, vous n'y croyez pas, hein, c'est fou ça. Hein. Et il faudra beaucoup de diacres, hein, et il faudra aussi plusieurs anciens, mais ils sont plusieurs et c'est bien de travailler ensemble. En Philippiens 1.1, on voit qu'ils sont reliés aux évêques. Hein, il y a autant d'évêques et autant de diacres. Et tout ça, c'est l'organisation là, de l'Église locale. Hein, Timothée 3.8 aussi, on parle encore de pluralité des diacres et de leur qualité. Quand on s'intéresse dans la Bible au rôle de ces diacres et diaconesses, on voit qu'ils sont une aide en fait pour le pasteur, pour l'évêque, enfin pour l'ancien. Comme on le voit dans Acte 6, même si là on parle des apôtres, mais plus tard, hein, ils sont des aides pour les pasteurs dans l'Église, des collaborateurs, on pourrait dire, qui travaille avec lui dans tous les domaines de l'Église. Hein. Là où il y a des besoins, le pasteur, des fois, ne peut plus aller. Ben, à un moment, il va demander de l'aide à ses diacres. Hein. Alors, être diacre, parce que j'entends souvent ça, ce n'est pas avoir une autorité dans l'Église. Hein. Ce n'est pas parce que je suis diacre, maintenant, m'obéissez. D'accord ? Ce n'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui sert. Parce que souvent, on veut être diacre parce qu'on est mis en avant, parce que voilà, on croit avoir une autorité. La première définition, c'est servir. Si vous aimez servir votre prochain, vous pouvez être diacre. Mais si vous voulez une autorité, il vaut mieux pas être diacre. C'est pas ça. C'est pas l'idée. dans le mot même de diacre. Il y a des ministères variés. Alors là, on voit qu'Étienne, par exemple, faisait des prodiges et des miracles. On est là aussi au début de l'Église primitive. Il y a des choses particulières qui se faisaient. Il était ensuite apologète. C'est quelqu'un qui défend sa foi, hein, qui était capable d'aller vers les gens et de défendre sa foi, parce qu'il connaissait la Bible. Hein, donc c'est en relation aussi. On voit par exemple Philippe qui était au départ diacre et qui va devenir plus tard évangéliste. Hein, il va aller voir l'Éthiopien. On n'est pas forcément diacre à vie. On peut changer aussi, évoluer. Je ne sais pas si on évolue, mais on peut changer de ministère parce que le Seigneur l'a décidé. On voit dans 1 Timothée 3,13 que les diacres remplissaient un ministère et avaient des tâches variées. Il y a des choses à faire dans l'Église, non ? Mais on ne sait pas lesquelles. Hein. C'est ça souvent le problème. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. Il peut y avoir des diacres de l'évangélisation, des diacres pour les enfants, des diacres pour ci, pour ça. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc on voit dans cette première partie que les diacres et les diaconesses sont des gens qui sont actifs, des gens qui sont responsables et qui étaient là tout simplement pour assister les anciens, les pasteurs, dans leur charge de l'église locale. Ça me rappelle un peu Moïse, qui à un moment était complètement débordé. Il y a son beau-père qui était venu hein, et qui lui a dit maintenant, élis des gens qui vont t'aider parce que tu ne peux pas tout faire. Et il ne faut pas vouloir tout faire non plus parce que c'est un peu ridicule quelque part. Mais il lui a dit, choisis des gens. C'est de la même manière, la sagesse à l'époque était de choisir des gens pour s'entourer et aider les pasteurs. Quand on s'intéresse au choix des diacres et diaconesses, hein, on voit qu'il y a des qualités. C'est exactement comme pour les anciens qu'on avait vu, hein, pour la plupart. Alors, des qualités morales d'abord, doivent être honnêtes ou dignes, c'est-à-dire honorables, vénérables, augustes. Hein. C'est des gens qui sont sérieux, très sérieux. Alors, sans exagérer, moi j'aime bien être très sérieux, j'aime bien avoir un peu d'humour aussi, on se comprend. Hein. C'est pas des gens... Ils sont éloignés de la duplicité, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir un double langage hypocrite. Hein. On va voir le pasteur, oui, et derrière, on ne pense pas la même chose. Hein. On l'a dit, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, c'est mieux que d'être hypocrite hein, et d'avoir un double langage. Ils sont éloignés des excès du vin, ça ressemble exactement pour les anciens. Ils sont reconnus pour leur sobriété. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool, mais ils ne sont pas esclaves de l'alcool. Hein. Ils ne viennent pas avec leur bouteille de Jack Daniel le dimanche matin. On est bien d'accord. Ils sont éloignés des gains sordides. Ils ne sont pas malhonnêtes, cupides, avares. Il faut bien se souvenir que dans Acte 6, ils étaient appelés aussi à s'occuper de l'argent, hein, puisqu'il fallait les distribuer aux pauvres. Et s'il était un peu avare, donc toi, tu n'es pas assez pauvre pour recevoir. Ou alors, un peu comme Judas, hein, un peu dans la poche. Personne ne le verra, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Excel ou je ne sais pas quoi pour voir les comptes. Hein. Donc, je pense que des fois, quand on est face à l'argent, c'est une tentation qui est là. Votre mois est difficile, vous avez la bourse de l'Église, là. Ah, ouais, je remettrai après. Hein. Et croyez que ça existe. Mais croyez-moi, il y en a qui sont partis avec, même, carrément. Hein. Donc, c'est quand même une confiance qu'on donne à ces gens-là. Et je pense que si on est un peu malhonnête dans ce domaine-là, vaut mieux laisser passer la chose. Ils ont des qualités familiales qui ressemblent à celles des anciens. Ils sont mariés d'une seule femme. On ne va pas revenir sur l'argument de polygamie, etc. Je pense qu'ils doivent être mariés d'une seule femme. Ils ne doivent pas être divorcés ni être infidèles à leur femme, ce qui est tout à fait normal. Comment travailler sinon dans l'Église ? Ils doivent aussi bien diriger leur maison et leurs enfants, parce que si ma maison est... On va dire un Capharnaüm pas possible, ça sera exactement la même chose dans l'Église, hein, ça ressemble tout simplement. Ils ont des qualités spirituelles, nous dit Paul à Timothée, hein, ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Un peu compliqué comment il le dit, mais en d'autres termes, il est attaché à la parole, il connaît la parole, je pense, et en plus il la met en pratique. Hein, parce qu'on peut connaître la parole et puis s'en foutre complètement. Mais il la met aussi en pratique, il le démontre. Là, je rejoins ce que tu disais la semaine dernière, c'est pas quelqu'un d'absolument parfait, qui obéit à toute la loi, au commandement, etc. Mais c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu et qui veut y obéir autant que cela, il peut le faire. Il a une conscience pure, c'est pas là non plus un saint parfait à l'égal de Jésus-Christ, mais c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire des reproches. On peut toujours faire des reproches à quelqu'un. On s'entend bien, mais ne pas faire des reproches généraux. C'est quelqu'un qui a une vie pure et qui... il est pécheur comme tout le monde, hein, mais qui demandera pardon au Seigneur, mais qui ne reste pas collé dans son péché. C'est quelqu'un qui, je pense, a une expérience chrétienne aussi, hein, parce qu'on l'a vu, ils doivent être éprouvés par l'Assemblée. Si je viens de me convertir, on n'a pas le temps de vous éprouver. On n'a pas le temps de savoir comment vous allez gérer une épreuve, un décès, ou je ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie d'un chrétien. Beaucoup se convertissent, et la première épreuve, ils lâchent complètement et s'en vont.
Si on vous élit comme diacre, ben, vous fuirez tout simplement vos responsabilités. Et ça, c'est pas très intelligent. Hein. Et ça, c'est à nous d'être aussi un peu sages, hein, dans le choix. Donc il faut qu'il ait un peu d'expérience dans la vie chrétienne, parce qu'après, il sera aussi en relation avec les autres. Aucune expérience dans cette relation avec les autres, dans la vie chrétienne, difficile de soutenir, d'encourager les autres aussi. Un temps pour tout. Il y a des critères supplémentaires qu'on a vus dans Acte 6, verset 3. Il doit avoir un bon témoignage, c'est une bonne réputation de ceux qui les entourent. Hein. Si on parle de quelqu'un et qu'on sait qu'il a un voleur, par exemple, ça pose des problèmes. Hein. Déjà, on ne lui confiera pas la bourse, ça c'est sûr. Mais voilà, il doit avoir un bon témoignage. Après, bon, il faut bien comprendre que des fois, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et même si vous êtes correct, ils vont tout faire pour vous casser. On est bien d'accord. Généralement, c'est sur le témoignage de un ou deux personnes, ou trois personnes. Hein. C'est le principe un peu biblique. Mais il a quand même un bon témoignage, une bonne réputation. Il est plein de Saint-Esprit. Alors, on est tous remplis du Saint-Esprit. Hein, la Bible nous le dit à partir du moment qu'on est de nouveau. Mais dans le sens où il obéit au Saint-Esprit, où il obéit au commandement, à la parole de Dieu. Et quand on le fait, généralement, on est rempli de sagesse aussi. Et si on n'est pas assez sage, Jacques nous rappelle que on peut demander de la sagesse. Vous êtes toujours sage ? Parfaitement sage ? On a du mal, hein, des fois, dans des choix, dans des difficultés. Mais on peut demander à Dieu, mais il faut demander avec foi. Hein, sinon, on est quelqu'un qui... Mais ils sont pleins de sagesse, parce qu'ils auront certainement des situations à régler, des difficultés. Hein, comment gérer l'argent, comment gérer les situations. Il faut quand même avoir un peu d'intelligence et de sagesse. Et cette sagesse vient de Dieu, évidemment. Puis Paul parle des diaconesses, hein, courtement, mais il dit qu'elles doivent être honnêtes et dignes. Ça dénote un esprit, un caractère sérieux. C'est exactement la même chose que pour les diacres. Il leur demande d'être sobre, et le mot sobre est très vaste dans sa définition, c'est tempéré. Ça rejoint l'abstinence aussi de vin, comme pour les diacres. Hein. Il dit d'être non médisante. Alors vous allez comprendre très vite en grec ce que ça veut dire. Non médisante, ça veut dire diabolo. Elles ne doivent pas être diabolo. Alors pas à la menthe, hein, on se comprend bien. Alors diabolo, je ne sais pas pourquoi ils emploient ça. Est-ce que les femmes sont comme ça ? Je ne sais pas. Bon. Enfin, elles doivent éviter les propos inconvenants, hein, les discours dans les couloirs, calomnier les gens, etc. Mais je pense que c'est valable pour les hommes aussi. Hein. On est capable dans ce domaine. Hein. Et elles doivent être aussi fidèles en toutes choses, dans les tâches de l'Église, avec une foi qui est vivante, qui est visible aussi. Il y a deux promesses qui sont faites, hein, à la fin, aux diacres et aux diaconesses, dans Timothée 3, 13. Ils vont s'acquérir un bon rang. Alors, quand on devient diacre, on n'a pas une promotion. Parce que souvent, on l'entend comme ça. J'ai une promotion dans l'Église. Ça y est, je suis devant. Regardez-moi. Eh, mais je rigole comme ça, mais c'est souvent le cas dans la tête des gens. On rappelle que quelqu'un qui est diacre, c'est quelqu'un qui se dit « je vais servir ». Finalement, ce n'est pas l'idée de promotion dans la tête, c'est le contraire. Hein. Servir, ce n'est pas toujours simple. Mais il y a des gens qui ont cette faculté d'aller servir le prochain. Donc ce n'est pas une promotion, mais Dieu, quelque part, va bénir ces gens qui ont envie de se mettre à servir l'Église. Et c'est normal qu'il les bénisse, hein, parce qu'ils font un travail pour l'Église, ils font avancer l'Église. Et en même temps, ils vont avoir une bonne réputation, parce que je pense que quelqu'un qui vient vous aider régulièrement, vous assister dans vos difficultés, vous n'allez quand même pas dire que c'est un... Voilà, vous allez reconnaître que c'est quand même quelqu'un qui est gentil, sympa, et qui commence à avoir une certaine notoriété, on pourrait dire. Mais attention à la notoriété. Hein. Attention. Il faut rester humble. Et en même temps, il dit, deuxième promesse, il s'acquiert une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je pense qu'à force, il a confiance dans ce qu'il est en train de faire comme travail. Il va avoir de la hardiesse aussi à le mettre en œuvre pour le Seigneur. Et vous savez, celui qui sert est heureux. Celui qui ne sert pas est malheureux, souvent dans l'Église. Donc, il va être heureux. Et celui qui se met vraiment en tant que diacre et qui fait son travail très sérieusement, ben, le retour de Dieu, c'est la bénédiction. Et puis, c'est la joie de pouvoir servir tout simplement le Seigneur. Donc, les diacres et les diaconesses sont choisis non pas leurs critères de vêtements, de beauté, d'intellect ou je ne sais pas quoi. Il y a des critères bibliques comme pour les anciens. Et avant de choisir quelqu'un, si un jour on met en place des diacres et diaconesses, relisez les qualificatifs, hein, et prenez le temps de voir qui pourrait être comme cela, est-ce que j'ai l'impression, etc. On peut discuter les uns avec les autres aussi. Hein. Mais c'est des critères qui sont bibliques et non pas des critères personnels ou de culture ou de je ne sais pas quoi. Et heureusement que Dieu fait les choses comme ça.
Et ce n'est pas parce que quelqu'un a les critères bibliques qu'il sera absolument parfait non plus. Alors, il faut bien se comprendre. On ne demande pas ça. Et puis, alors, on a vu les anciens, le rôle des anciens, on a vu le rôle des diacres, et puis, alors, il y a les autres qui vont dire, mais moi, je fais quoi ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a autre chose que cela ? Je crois que oui. Hein. Nous avons tous un service dans l'Église. Tous d'une manière, alors, je mets entre guillemets, on est diacre dans le sens du terme serviteur. On est tous serviteurs, diakonos du Seigneur. Parce qu'on l'a vu, le mot traduit autant serviteur, autant ministre, il a une connotation assez large. Mais il y a quand même l'idée de me mettre devant le Seigneur et de dire qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux te servir maintenant ? On voit le mot, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a diakonos de la Nouvelle Alliance, de la justice, de Christ, de Dieu, de l'Évangile. Vous voyez, la multifacette, on va dire, de ce mot. Mais nous avons tous eu un don, nous dit la Bible. Un don, ça veut dire que je vais faire quelque chose dans l'Église, mais pour les autres. Hein. La définition du charisme, charisma, je crois que c'est comme ça en grec, c'est servir l'autre. C'est pas se servir soi-même. Quand j'ai un don du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité des autres. C'est comme je dis souvent, hein, si je prêchais le dimanche matin à mon lapin et je ne serais pas là, ça ne vous sert à rien. On est bien d'accord. C'est ça, avoir un don, quelque part. Et si j'ai un don et que je ne le mets pas au service de l'Église, ce n'est pas un don dans la définition biblique. On est appelé à servir son prochain. La Bible a beaucoup de passages là, hein, qui le disent. Mettre au service des autres le don qu'on a reçu dans 1 Pierre 4:10. Hein, 4:10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'ai une faculté, un don que Dieu m'a donné, c'est pour Bruno. Parce qu'il en aura peut-être besoin. Enfin, il n'y a pas que Bruno, vous avez besoin de vous aussi. Vous comprenez l'idée. Et chacun d'entre vous, vous avez une qualité, un don que Dieu vous a donné. Si je passais là maintenant, je vais vous demander quel est votre don. Ah ben, ben oui, ça serait peut-être le moment d'y réfléchir, non ? Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour vous ? Parce qu'il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que les diacres, il y a vous aussi dans l'Église. Et sans vous, ben, on ne peut rien faire. Chacun a un don. Et j'aimerais bien que durant cette année, on puisse trouver sa place vraiment dans l'Église. On n'a pas besoin d'être forcément tout de suite membre non plus, mais trouver sa place dans l'Église pour servir. Alors il y a des gens qui ont plusieurs dons, hein, on les voit, et il y a des gens qui ont des dons qu'on ne voit pas, comme prier pour les uns et les autres. Sur Arles, on avait un couple, hein, je le répète souvent, mais bon, parce que ça m'a marqué, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Mais tous les matins, ils priaient pour les membres de l'Église. C'est discret, c'est invisible, c'était leur don à eux. Et ils le faisaient, et combien c'est utile. Hein, quand on part au boulot et savoir qu'il y a des gens qui prient pour vous, c'est pas... ça ne donne pas la pêche ? Si, normalement, hein, mais bon, on ne le sait pas, souvent on n'y pense pas. Mais Dieu le sait, heureusement. Donc, on est appelé à servir les autres comme des dispensateurs. Le mot, c'est comme des économes. Hein. Chacun d'entre nous, on est gestionnaire de l'Église, de ce que Dieu veut faire dans cette Église. Je suis le gestionnaire d'une partie de cette Église. Souvent, on laisse cette gestion au conseil, au pasteur, et puis débrouillez-vous avec. Ce n'est pas ça l'idée. Chacun a sa part dans cette gestion de l'Église. On gère les affaires de Dieu ensemble. Ensemble, on annonce la bonne nouvelle, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui aiment distribuer des traités, il y en a qui aiment prêcher en public, il y en a qui aiment juste le témoignage comme cela. Mais chacun d'entre nous, nous sommes gestionnaires de cette annonce de la bonne nouvelle, gestionnaires de s'occuper de l'Église. Heureusement qu'il y a des gens qui font le ménage. Vous imaginez si personne faisait le ménage, au bout de 52 semaines, ça donnerait quoi ? Hein ? Et puis il y a d'autres affaires, hein, il y a beaucoup de choses. C'est un service qui est motivé aussi par notre salut et le tribunal de Christ. J'ai dit ça parce que souvent, j'ai pas envie de servir. Fatigué, moi, le samedi, hein, la semaine, etc. Je sais que j'ai un don, je sais que Dieu m'a dit que j'ai quelque chose à faire, mais bon, hein, on est comme ça. Il faut être honnête. Mais ce qui me motive, moi, en tout cas, dans mon service, c'est de savoir que j'ai été sauvé. Je sais pas, il faudrait un jour qu'on ait l'occasion de voir Jésus sur la croix, souffrir, en face de nous. Sérieusement, pas juste de l'imaginer, mais de le voir agoniser. Je crois que notre petit cœur, il va commencer à se briser un petit peu, enfin j'espère, parce que sinon on est si froid à ce point-là. Mais si on pouvait se souvenir du salut et de ce que ça a coûté à Jésus pour nous, un petit peu de service, tout petit peu, c'est pas grand-chose demandé. Et en plus, dans Éphésiens 2:10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les entendions. » Regardions, pratiquions. Ah mince, pénible, hein,
pratiquer. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, ça c'est une chose, mais aussi avec un ministère, un don, un service maintenant à mettre en pratique pour lui. Et quand je sers le Seigneur, je dis merci pour ta grâce. C'est ça, c'est de la reconnaissance tout simplement pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Servir, c'est comprendre le rachat qui a été fait dans ma vie. C'est mettre ma foi en œuvre. Et comme dit Jacques, hein, montre-moi ta foi par les œuvres. Si je ne fais jamais rien dans l'Église, si je ne mets pas en pratique mon don, on peut se poser la question, est-ce que tu as vraiment la foi ? Vraiment ou pas ? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau ? Peut-être même. Et surtout qu'à la fin, ce tribunal de Christ, à un moment, on sera devant Christ, je ne sais pas si vous imaginez, devant Jésus-Christ, hein, sa gloire. Et là, il va dire, ok, ben on va t'évaluer maintenant. Alors, je t'avais proposé de faire un tas de choses, je t'avais dit ça, 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 et qu'est-ce que tu en as fait ? Alors, ça ne remet pas en question notre salut, mais il y a des récompenses au bout. On ne sait pas ce que sont les récompenses, et dans l'ignorance, je préfère essayer d'aller plus que moins. Parce que c'est l'éternité après qu'on va vivre. Donc, on verra bien ce que c'est. Mais ce n'est pas la récompense le plus important ou ce qui me motive, moi, dans ma vie. C'est la grâce de Dieu. Je crois que c'est ça qui doit nous motiver le plus. Si j'ai vraiment compris d'où j'étais et où je vais et ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux que lui dire merci. Et le merci se traduit tout simplement par le service. Et si on veut chercher un exemple de serviteur, ben, la Bible nous donne Jésus-Christ. C'est le serviteur par excellence. Il a été annoncé comme le serviteur dans l'Ancien Testament et il a démontré ce service dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'il a fait le plus grand des services qu'on peut imaginer dans ce monde. Il nous a rachetés. Et il est allé jusqu'au bout. Imaginez que pendant les 3 ans et demi de ministère qu'il avait, à un moment, il en avait marre. À Gethsémané, trop lourd, là. Les perles de sang là, qui coulaient. Il disait, j'en ai marre. Non, je vais rentrer à la maison tranquillement et puis tant pis pour la croix. Vous imaginez s'il avait fait ça ? Ou si les malades arrivaient, écoute, là, il y a une émission télé, j'ai pas le temps. Mais c'est ça, hein, je rigole, mais c'est ça souvent dans notre cœur. Quand on voit les priorités dans notre vie par rapport à ce que le Seigneur nous demande, lui a été le serviteur parfait, il a toujours été présent pour chacun. Vous allez me dire, c'est Jésus. Oui, d'accord, il n'est pas comme nous, mais il nous demande quand même de lui ressembler. Lui est venu nous servir et nous a montré l'exemple de ce service. Et c'est intéressant de reprendre les évangiles et de voir comment il a servi, dans quel domaine, combien de temps, les efforts qu'il a mis aussi pour servir son prochain. Et ce qu'il attend de nous aujourd'hui, ben c'est que nous faisions comme lui. Le maître n'est pas plus que le disciple. On est appelé à servir comme lui, dans tous les domaines de notre vie, avec notre don, avec nos qualités. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Alors on pourrait se poser la question, mais les besoins d'Étrichy. Est-ce qu'il y a des besoins à Étrichy ? Alors j'ai juste pris quelques besoins. Alors je vous les lance, un peu de pub. Les flambeaux, ils ont besoin de monde. Et ça réjouirait Rémi d'avoir des assistants là qui l'aident. Il est là-bas, allez le voir tout à l'heure. L'école du dimanche, il ferait du bien de temps en temps d'être un peu soulagé, je pense, non ? Il y a peut-être des gens qui ont une vocation là-dedans. Bah, allez voir les responsables ou... Allez, essayez une fois pour voir, peut-être que c'est votre domaine. Vous savez, non, ça ne vous tombe pas sur le coin de la figure. Il faut des fois essayer. Après, ben non, c'est peut-être pas dans mon domaine, et puis je vais essayer ailleurs. On a besoin de mains pour distribuer les traités. Le plus jeune d'entre nous qui vient avec moi tout le temps, 81 ans, c'est ça, ou 81 ans, il court dans les rues. Il y va plus vite que moi, d'ailleurs. Non, je rigole. Enfin, tu cours quand même. Mais il y a peut-être besoin de mains. Alors, ce n'est pas forcément le mercredi, parce que je sais qu'on ne peut pas, mais vous avez des boîtes aux lettres à côté de chez vous. Prenez 2-3 traités, mettez-les dedans, promenez-vous avec votre famille, allez. Ne laissez peut-être pas faire les enfants, parce que ça, j'hésiterai quand même de le faire, mais soyez au moins à côté d'eux. Il y a besoin de visite, des fois, moi je l'ai fait, mais c'est bien, des fois il y a des dames, je ne peux pas les visiter parce qu'elles sont seules, mais si une dame allait visiter une autre dame, quelques dames allaient visiter une dame, c'est pas compliqué, un bon petit café, là, 2-3 biscuits, un moment de partage, de lecture de la Bible, de prière, ça fait du bien quand on repart généralement. On peut se faire que du bien. Il y a des gens qui... On a besoin de gens qui prient. Alors on a un petit noyau là de 3 le mardi soir. J'en veux plus, moi. J'ai besoin de gens qui prient. Parce que si l'Église prie, je sais que l'Église va avancer. C'est obligé. Alors, vous ne pouvez pas être là, faites-le au moins chez vous. Prenez le temps de prier pour l'Église. On a besoin de gens pour l'entretien du bâtiment. On a besoin de gens. Il y a toujours besoin de quelque chose. Vous avez tous un don. Donc vous pouvez trouver quelque part dans toutes ces cases votre place en tant que serviteur, en tant que diakonos
pour le Seigneur Jésus-Christ. Si je ne suis pas diacre, diaconesse, si je ne suis pas ancien, ben je ne suis pas au chômage. Amen. Pour une fois qu'il n'y a pas de chômage dans un domaine, quelque part, hein, on ne va quand même pas se plaindre. Hein. Donc il n'y a aucun chômage dans l'Église, il y a toujours un service. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que je vais prendre le temps une fois de me mettre à genoux, de demander honnêtement à Dieu, qu'est-ce que je peux bien faire dans cette Église ? D'abord, il faut que j'ai envie, ça c'est clair. Si je n'ai pas envie, je ne le ferai jamais. Mais si j'ai envie et que je ne sais pas où aller, ben, priez déjà. Pas une fois, sérieusement. Et puis venez me voir, ou venez voir les gens du conseil. Peut-être d'autres qui peuvent vous guider. Hein. Mais si j'ai vraiment envie, je vais me mettre au travail. Et je suis sûr qu'au bout, le Seigneur vous donnera une réponse, d'une manière ou d'une autre. Et vous vous mettrez à servir le Seigneur, et vous verrez que quand on sert le Seigneur, il y a de la joie, on s'épanouit aussi. Pour terminer, on l'a vu, tous les chrétiens sont appelés à servir. Hein, il ne s'agit pas d'être à l'église tous les jours. On s'entend bien aussi, parce que souvent on confond. Hein. Il s'agit de servir quand le Seigneur nous demande de le faire, avec nos possibilités, nos capacités, notre temps aussi. Maintenant, il y a des priorités des fois qu'on pourrait enlever pour rendre Jésus plus prioritaire dans notre vie. Bon, ça, c'est à chacun d'y réfléchir. Mais tous les chrétiens sont appelés à servir, autant les anciens, autant les diacres, autant tous les divers ministères que le Seigneur veut dans l'Église. C'est une responsabilité que j'ai devant Dieu. C'est une responsabilité. Ce n'est pas juste une option dans ma vie de chrétien. Je serai évalué, on l'a vu tout à l'heure. Mais au-delà de « il faut faire pour faire », parce que souvent c'est comme ça dans notre tête, si vous disiez « je veux dire merci à Dieu pour sa grâce ». Ce n'est pas la même optique, ce n'est pas la même énergie, on pourrait dire. Je veux être reconnaissant à Dieu. Voilà. Et je peux le faire d'une manière pratique, par un service, par mon don dans l'Église. Et quand je ferai ça, je dirai aussi merci autant à Dieu pour ce qui me montre comme don, mes qualités que j'ai, mais en même temps, je dis merci pour la grâce qu'il m'a accordée. Et vous savez, quand vous servez, vous réjouissez Dieu. Alors, vous ne le voyez pas, mais j'en suis convaincu que Dieu est là. Oh, je suis content. Vous aimez rendre Dieu content ? Souvent, on l'a triste, hein. Mais Dieu sera content si toute l'Église, je ne dis pas une ou deux personnes, si toute l'Église se met au travail, plus ou moins, mais je suis convaincu qu'il bénira cette Église si on le fait. Le savoir servir, ça devrait être un plaisir. Un plaisir de servir le prochain. Il n'y a personne qui répond, donc ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas toujours un plaisir de servir son prochain. C'est difficile de servir, surtout celui qu'on n'aime pas, hein, ou qui est un peu grognon, qui est un peu avec son caractère. Mais je veux quand même essayer de l'aider, je veux aller vers lui, je veux le servir, parce que servir, c'est un plaisir, parce que je veux servir celui qui a offert sa vie, celui qui me sert tous les jours dans ma vie. Au quotidien, il ne se lasse pas de le faire, alors je veux faire comme lui, dans la mesure qu'il m'a donné un don ou des qualificatifs. Alors j'ai qu'une seule chose à dire, c'est au travail. On va prier. Seigneur, merci pour cette épître à Timothée et pour l'organisation de Paul de cette église locale, avec ses anciens, avec ses diacres et diaconesses, avec chacun et son don, et toute cette fourmilière qui est au travail normalement dans l'église locale et qui veut bâtir par son service cette église, offrir au prochain ses dons, ses qualités. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes chacun d'entre nous, et je te prie de nous réveiller, de nous secouer, même s'il y a besoin, pour que je trouve ma place dans cette Église, que je vienne avec joie pour servir mon prochain. Et comme on l'a dit, au-delà de tout cela, nous voulons être reconnaissants pour la croix, pour ce sang versé, comme nous l'avons commémoré ce matin, pour l'œuvre de grâce que tu as fait pour chacun d'entre nous, et pour répondre aussi à cet ordre que tu nous donnes de pratiquer les œuvres que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous fais l'honneur de servir dans l'Église. Tu aurais pu faire ça tout seul, mais tu as décidé de nous faire confiance. Et oui, c'est un véritable honneur que tu nous fais. Alors, montre-nous à chacun cet honneur et donne-nous des cœurs reconnaissants dans le service pour ta gloire, Seigneur, et pour l'avancement de ton règne. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.